On a vu passer au cours des dernières heures un projet de loi qui est déposé bizarrement assez tardivement. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un piège politique tendu par Trudeau aux conservateurs. Le projet de loi vise à faire le shérif sur le far web.
C'est une très bonne expression.
C'est pas la mienne, elle est dans la presse aujourd'hui, l'éditorialiste de la presse. Si vous cherchez un bon article là-dessus, là, l'éditorialiste de la presse a vraiment fait le tour et expliqué comment devrait fonctionner cette loi-là. Mais ce projet de loi vise à faire en sorte que Facebook va être obligé, Facebook puis les autres, là, vont être obligés en 24 heures de supprimer tout contenu haineux. Toute incitation à la violence, les menaces, etc. Ça risque d'amener Facebook à raccourcir encore plus son
délai.
Ses algorithmes. On parlait hier, ouais. Là, des fois, il suffit de mettre un mot, puis pouf, Facebook vous suspend. Alors, c'est plein de bonnes intentions, sauf que ça m'inquiète quand même un peu pour la liberté d'expression. Je me rappelle d'une phrase qu'avait dit Stephen Guilbeault à la TV, je pense que c'était à Tout le monde en parle, où il avait dit « Ta liberté d'expression s'arrête là où la blessure de l'autre commence. » Et même si la formule est jolie, ça m'inquiète. Parce qu'il faut qu'on ait le droit de dire des choses qui peuvent être blessantes, en autant qu'on les croit sincèrement et que le but n'est pas de diaboliser, de démoniser, de rendre haïssable quelqu'un. J'ai le droit de dire, par exemple, qu'une religion me semble rétrograde. Ça va blesser des adeptes de cette religion-là. Mais j'ai le droit de le dire. Et je veux garder le droit de le dire. Alors, comment est-ce qu'on va définir la haine? Comment on va définir l'incitation à la violence? Est-ce que ce projet de loi qui est présenté apparemment bien proche, enfin, les consultations commencent, là, mais bien proche d'une date où Trudeau va déclencher les élections? Là?
Ah non, il a dit qu'il n'en déclencherait pas.
Ben oui.
Il a nommé 5 sénateurs hier. Il a nommé une GG dont on avait besoin comme de trou dans la tête.
Miriam, t'es de mauvaise foi.
Voyons, c'est, ça ressemble à ça. Comment les conservateurs vont-ils réagir à cela? Est-ce qu'ils vont mettre le pied dans le piège à our et se faire accuser après ça d'encourager l'extrême droite? J'ai au téléphone Alain Raïs, qui est le député du conservateur de Richmond-Arthabasca, qui est aussi le ministre fantôme, si je peux dire, pour les conservateurs du patrimoine canadien. Bonjour, Monsieur Raïs.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. On se prépare à une élection que Justin Trudeau veut nous mettre dans la gorge à toute la population, comme vous l'avez bien mentionné. Puis on essaye de se préparer comme il se doit, parce qu'on n'a pas le choix.
Monsieur Raïs, le projet qui est présenté, tout le monde souhaite effectivement que les réseaux sociaux se disciplinent un peu, deviennent un lieu un peu plus serein de discussion. Est-ce que ce projet de loi-là vous sourit?
Ben, premièrement, ce que vous dites, là, même les groupes sociaux, je fais partie du comité patrimoine comme vice-président, puis je l'avais mentionné, je suis ministre du cabinet fantôme, fait que mon interlocuteur, c'est Stephen Guilbeault, celui qui est un peu le porte-parole de ce projet-là, cette consultation-là qu'il a lancée. Même Facebook demande à ce qu'il y ait une certaine réglementation, parce que c'est tellement un sujet qui est délicat, la question de la liberté d'expression et cet enjeu-là. Mais en même temps, ça fait pas sérieux que le gouvernement qui dit que c'est sa priorité, qui veut essayer de mettre fin à des situations qui sont inadmissibles, lance une consultation en plein milieu des vacances de la construction au Québec en disant que c'est sa priorité alors que ça fait 6 ans qu'ils sont là et que là, on n'aura pas l'opportunité d'analyser ce projet-là justement sur tous ses angles. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage et que la liberté d'expression, qui est aussi très sensible et importante dans notre démocratie, ne soit pas affectée avec ce projet qui est sur la table. Là.
Mais est-ce que le projet qui est sur la table, ce que je comprends, c'est que le projet veut créer deux instances. Un espèce de comité qui va entendre les plaintes vite, puis un espèce de tribunal.
Exactement. Puis mettre des amendes. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà des lois au niveau de la justice, que les gens qui s'occupent, la police, les avocats, la couronne, n'ont pas les ressources financières déjà pour gérer ces problèmes-là lorsqu'il y a des actes criminels qui sont faits par des individus, que ce soit physique ou virtuel. Donc, des plaintes, des actions peuvent se prendre, mais on n'est pas capable de faire le suivi par manque de ressources. Donc, le gouvernement libéral, il fait quoi? Comme d'habitude, un, il y a un discours qui est très vertueux, mais rarement accompagné d'action. Puis deuxièmement, ben la recette facile, c'est on crée une nouvelle instance, un nouvel organisme. Quand on a déjà des structures qui n'arrivent pas à relever le défi qu'ils ont par manque de ressources en ce moment au niveau de la loi. Fait, on le sait tous, les libéraux, là, dès que ça touche des enjeux de justice, de protection des victimes, c'est pas leur grande force, ça, de mettre des peines plus sévères. On a juste à penser au proxénète. Il y avait un projet de loi qui était adopté, qui a eu la sanction royale. Le Québec a un projet, puis c'est même mon collègue Pierre Paulus de votre région à Québec qui a poussé cet enjeu-là. Et le gouvernement libéral n'a rien fait. Et là, ils nous garochent en plein été comme quoi que c'est une priorité, puis qu'ils vont poser des gestes pour protéger les gens. Fait que moi, je vous le dis, là, j'en ris, là, avec beaucoup de sarcasme, je me dis, Steven Guilbeault, là, on a vu ce qui s'est passé avec C10. C'est un peu le même petit jeu qu'ils essayent de nous faire en ce moment, là.
OK. Là, ils veulent chasser les discours haineux, l'incitation à la violence, le contenu terroriste, le partage non consensuel d'images intimes et le contenu relatif à l'exploitation sexuelle des enfants. Sur les deux derniers, on va être assez vite d'accord. Le discours haineux, le problème, c'est la définition de la haine.
Et voilà.
Comment vous
l'avez très bien dit. Comment on fait pour définir ça? Puis qu'est-ce qui fait que ce qui choque quelqu'un est considéré comme de la haine? Vous avez très bien nommé un élément qui est fort pertinent dans le discours en ce moment, tout ce qui touche la religion. On a une charte des droits et libertés qui protège les individus qui veulent s'exprimer. On le voit quand ça touche des enjeux aussi sensibles que ça, qui touchent la foi des individus, qui font en sorte que des gens sont complètement abasourdis d'entendre des choses, puis pour eux, c'est la fin du monde. Puis pour d'autres, c'est quelque chose qui est important, puis qu'ils veulent être capables de s'exprimer pour dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec une situation. Donc, c'est très, très délicat. C'est une ligne très mince, qui mériterait un débat, moi je pense, là, important sur la place publique et qui demanderait aux députés, aux législateurs d'entendre des témoins, des experts, des professeurs d'université qui viennent parler de ça. Puis on verrait que les opinions sont très différentes. Le même Pierre Nantel, qui était un fervent défenseur de Steven Guilbeault, de son projet de loi C10 sur la radiodiffusion, qui a dérapé complètement, lui-même a dit dans une entrevue que ça faisait pas sérieux de la part du gouvernement de déposer ce projet de loi-là en ce moment-là, pendant les vacances, dans une consultation qui va finir, imaginez, seulement en ligne, donc pas de consultation en personne pour qu'on puisse poser des questions, en ligne le 25 septembre, alors qu'on va être en pleine élection fédérale.
Avez-vous l'impression que c'est juste une patch pour pouvoir dire en campagne électorale on s'apprête à s'attaquer aux messages haineux?
Ben oui, c'est clair. Steven Guilbeault, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir avec les libéraux. Là, lui, pas 6 ans parce qu'il est arrivé en 2019. Ça fait 6 ans que les libéraux disent qu'ils veulent s'attaquer à ça. Et on nous garoche ça pendant l'été, quand le Parlement est fermé et que personne ne peut poser de questions. En plein, je le répète, en pleine vacances de la construction, avec une échéance en ligne qui va arriver pendant la campagne électorale. Fait, comment voulez-vous que la population, pour qui cet enjeu-là peut être important et qui est sensible, qui ont vécu, on a tous vécu des situations, je suis certain que vous avez reçu des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, là. Moi, je peux vous dire que j'en reçois, là.
Moi, non, je suis quelqu'un tellement gentil que personne me menace, moi.
puis la ligne est mince. Des fois, on se dit, bon, moi, souvent, là, je me pose la question, est-ce que je masque un message parce que il est là, mais là, en même temps, je me dis, cette personne-là a le droit à son opinion, mais d'autres m'écrivent, me disent, c'est incompréhensible que vous laissez ça sur votre page, monsieur le député, mais moi, à la limite, je trouve que c'est une opinion, mal phrasée peut-être par certains, mais qui représente quelque chose. Donc, la ligne est très, très mince, puis là, on garoche ça de même, sans débat sérieux, sans experts qui peuvent s'exprimer. Je le répète, ça fait comme, bon, on va pouvoir dire qu'on a fait quelque chose, puis en réalité, ça sera rien passé.
Ce qui m'inquiète, c'est que là, ça va être la sensibilité de chacun qui va gérer si c'est haineux ou pas. Or, il y en a qui ont la couenne mince, s'il vous plaît.
Ben oui, puis on le voit avec les libéraux en ce moment au pouvoir. Quand on pense pas comme Justin Trudeau, comme les libéraux, on est des dinosaures, des démagogues, on prône la violence, la division. Mais celui qui le fait le plus présentement, là, excusez-moi, là, mais c'est Justin Trudeau lui-même qui essaye de tous nous mettre dans le même panier puis faire en sorte que l'ensemble de la population pense pareil sur tous les enjeux et qui fait en sorte qu'on ne peut plus avoir de débat serein sans se faire catégoriser dans le coin parce qu'on ne pense pas comme Justin Trudeau avec sa vision du monde libertarienne totale comme on le connaît en ce moment. Donc, moi, personnellement, là, pas parce que je suis conservateur comme individu, ça me fait peur, cette tendance-là, qui fait en sorte que on, le même discours qu'on a eu sur l'histoire des statues de McDonald's, l'ancien premier ministre, sur la question du passé, ou si on remet en question le fait que des gens démolissent des statues d'une partie de notre histoire, c'est qu'on cautionnerait ce qu'ils auraient fait à ce moment-là, au lieu d'une autre version qui représente ce que moi je pense. Au contraire, on devrait les laisser là, quitte à bonifier les inscriptions, l'information, pour éduquer les gens sur des erreurs du passé, sur lesquelles on n'est plus rendu là du tout. La population, elle a évolué, on pense différemment, puis on n'est pas des moins bons Canadiens parce que des gens, il y a 100 ans, ont fait des niaiseries. On a, nous aussi, évolué, puis on est rendu ailleurs, puis
ils ne
font pas le passé.
J'ai une question, parce que je comprends, puis on peut pas être contre la vertu non plus, puis je comprends l'ouverture à l'interprétation de ce qui est un discours haineux, mais de ce que je comprends, c'est que dans le projet de loi, on se réfère au code criminel, qui détermine déjà ce que c'est un discours haineux, là, jusque dans une certaine mesure. Alors pourquoi l'ambiguïté existerait pas au sens criminel dans la vraie vie, mais que tout d'un coup, elle se met à exister sur les réseaux sociaux?
Ben, moi, je pense pas qu'elle existe nécessairement. Le problème, c'est que ceux et celles qui doivent interpréter la loi, la faire respecter, ont pas les ressources pour pouvoir le faire. Et là, on va recréer une autre instance encore en ce moment. Parce que des plaintes pour policières sur des enjeux comme ça, il y en existe. Puis on en a tous fait. Puis il y a des gens même qui taguent la police lorsqu'ils reçoivent un commentaire haineux sur les réseaux sociaux. On peut dénoncer cela aux réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, et ils prennent la décision s'ils bannissent des comptes ou non, ainsi de suite. Peut-être que ça demanderait plus de clarification. Mais moi, personnellement, ce que je vous dis là, c'est on a déjà même des ressources, on a de la misère à les faire appliquer, on en crée d'autres. Puis pire, fait ce débat-là pendant l'été.
Mais je comprenais que le projet de loi, ça responsabilise TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Ils deviennent responsables de bloquer en dedans de 24 heures les discours haineux, sans quoi ce sont les réseaux qui sont mis à l'amende.
Oui, puis ces gens-là vont vous dire, donnez-nous une définition claire pour qu'on puisse appliquer ça, mais la ligne est mince, c'est des individus qui vont décider à la place d'eux. Puis c'est là toute la sensibilité d'un enjeu comme ça qu'il faut pas faire à la vite pendant les vacances de la construction dans une consultation qui est strictement que virtuelle. Donc, à la limite, des gens à l'extérieur de ce réseau-là qui sont pas habilités à aller sur les plateformes pour écrire leurs commentaires ou à la limite qui ont de la difficulté à l'exprimer par écrit, mais qui aimeraient le dire en personne, comme ça se fait dans des comités parlementaires avec des experts aussi qui viennent donner leur opinion sur lesquels on peut interagir parce que moi, je fais partie de comités. Certains pensent que c'est du temps perdu, mais au contraire, moi, j'apprends beaucoup, même comme législateur, malgré toute la lecture qu'on me prépare. On a des experts, on a des qui nous documentent, qui nous donnent de l'argumentaire, des questions pertinentes à poser, qui nous permettent de peaufiner nos connaissances dans ce domaine-là. Puis je vous dirais qu'entre le début du travail d'un comité jusqu'à la fin, il y a toute une évolution dans notre esprit qui se fait, acter les opinions de tous et chacun pour arriver à quelque chose qui se tient au bout de la ligne. Mais moi, là, à ce moment, je suis dans le comité patrimoine, je suis vice-président, je suis en pleine période estivale, dans ma tournée, en préparation d'une élection que Justin Trudeau veut nous faire, pour nous garoche en passant pas un projet, parce qu'on dit tous un projet de loi, mais moi, j'ai vu aucun projet de loi, là, pour pouvoir en discuter. Là, on parle d'une sortie publique qu'a faite Stephen Guilbeault, qui a été toute stagée, sur lesquels des articles ont été écrits avec quelques grandes lignes qui représentent la vertu, sans aucune possibilité pour nous de questionner les détails de ça, là.
OK. Donc, vous n'avez pas de documents à part une liste de bonnes intentions?
Tout à fait. Moi, j'ai rien. Là, je suis législateur. Je suis représentant de mon parti au niveau de Patrimoine Canada. Ça touche trois ministères, en passant, Sécurité publique, Justice et Patrimoine Canada. C'est même pas les représentants de la Justice et de la Sécurité publique qui l'ont présenté, mais Stephen Guilbeault, qui n'a aucune connaissance sur ces deux autres secteurs-là, qui est allé faire une sortie publique pour parler de ça pendant l'été, sans qu'on ait un document quelconque de notre part pour pouvoir, comme opposition, faire notre travail de critique, là.
Question d'un auditeur. À la place de s'attaquer à ce qui est public, publié, puis que tout le monde peut juger, pourquoi on s'attaque pas énergiquement au dark web?
Ben, ça serait, c'est la question est tout à fait pertinente. Ça serait le fun qu'on la pose. Puis la même chose sur les plateformes de messagerie. Comme disait M. Nantel, ils ont exclu d'office toutes les plateformes de messagerie. Mais ces plateformes-là ont des groupes de discussion avec un paquet de monde dans lequel ces gens-là font de la propagande. Les gens qui ont des mauvaises intentions font de la propagande, font de la sollicitation auprès des jeunes, vont s'attaquer à ces gens-là.
Ceux qu'on a chassés des réseaux sociaux se ramassent maintenant sur des pages consacrées sur WhatsApp, par exemple.
Exactement. Puis là, on a d'autres problèmes et le projet de loi exclut ça. Donc, ce serait une des premières questions que je poserais, être devant le ministre ou devant les experts du Patrimoine Canada ou de la Sécurité publique ou de la Justice pour dire pourquoi pouvez-vous nous expliquer l'argumentaire en arrière de ça? Mais comment vous voulez que ça se fasse? Les journalistes ne pourront pas le faire, les experts ne pourront pas le faire, puis les parlementaires de l'opposition ne pourront pas le faire. Et l'expérience a démontré que les libéraux ne faisait pas bien ce travail-là préalablement. On l'a vu avec C10 sur le projet de sa radiodiffusion où ils ont enlevé un article de loi qui a fait tout un débat, pas juste par les oppositions conservatrices, par des experts universitaires qui ont clairement fait la démonstration qu'il y avait une ouverture d'attaque face à la liberté d'expression en donnant au CRTC un organisme gouvernemental, paragouvernemental, je voudrais plutôt dire, le pouvoir de décider ce qui est bon ou pas bon de ce que les gens vont mettre comme contenu sur les plateformes.
Ouais. Puis là,
mais je sais pas quoi rajouter de plus que ce que je viens de vous dire là.
C'est quoi la solution conservatrice à arrêter ce qu'on appelle le far web, c'est-à-dire ces échanges acrimonieux, haineux, ce langage inutilement injurieux? C'est quoi votre solution à vous?
Ben, sincèrement, c'est un débat, moi, je pense, qui doit se faire. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Là, je vous partage mon opinion parce que j'ai pas devant moi la plateforme, puis ça va être déposé en temps et lieu, quelle sera notre proposition qui sera faite. Mais à la base même, puis ça, c'est très conservateur, ce que je vous dis là, c'est qu'on a des organismes de justice qui sont là. Ces organisations-là, ce qu'ils nous disent lorsqu'on leur parle, ces leaders-là, ces gestionnaires-là, c'est qu'ils manquent de ressources pour faire leur travail, que ce soit les corps policiers, que ce soit la couronne, le manque de juges, le fait que le gouvernement ne nomme pas les juges, qui fait qu'il y a du retard dans toutes les procédures, qui fait en sorte que les victimes ne sont pas protégées. Donc, on a demandé une charte des victimes. On a une charte des criminels, mais on n'a pas de charte des victimes pour les protéger.
Okay.
Ça, c'est purement conservateur. La question du proxénétisme, même physique, ils sont pas protégés, ces victimes-là. Et là, on nous dit qu'on va aller dans le numérique, qu'on n'est même pas de protéger ceux qui sont là sur le terrain, qu'on est capable de mettre des visages dans ces histoires-là d'horreur qu'on entend et qu'on voit dans les médias.
Merci beaucoup, M. Reyes. Bonne suite de vacances, si vous en avez.
La semaine prochaine, on en prend une officielle à 100%, puis on va être prêt si Justin Trudeau décide de déclencher les élections.
Oui, mais ça, de plus en plus, ça me semble clair qu'il pose les jalons pour pouvoir prétendre avoir agi dans tous les dossiers.
D'après moi, si on se parle dans deux semaines, maximum deux semaines, c'est parce qu'on va être en élection.
Merci, M. Reyes. Bonne chance. Au revoir.
Bonne journée.
Bye. Alain Reyes est le porte-parole conservateur en matière de patrimoine canadien. Puis, écoute, ce que Stephen Guilbeault a présenté hier, dans le fond, là, c'est juste un petit feu d'artifice électoral. Juste pour dire qu'ils ont fait quelque chose pour essayer d'endiguer les flots de haine sur Facebook, etc. Mais clairement, c'est pas un projet sérieux.
Moi, ce que je pense qu'on est rendu, là, c'est à créer... Là, je vais me faire pitcher des tomates parce qu'on créerait une autre structure policière, gouvernementale, ou peu importe. Mais au même titre que le tribunal administratif du logement, le nouveau nom pour j'ai déjà oublié
la régie du logement,
voilà.
Ouais.
C'est pas...
Ça marchait tellement bien qu'ils ont changé de nom.
Mais à la base, c'est que c'est pas un service policier. Ils ont force de loi, mais c'est pas la police en tant que telle. Je pense qu'on est rendu à une étape où on doit créer un service juridique ou un service policier ou de surveillance indépendant de la police.
C'est exactement ce que le projet de ce que Stephen Guilbeault a annoncé. Le problème, c'est qui va juger ce qui est publiable ou ce qui ne l'est pas.
Cet organisme-là qui serait indépendant de la police.
Tu me fais tellement mal à ma liberté d'expression. Je vais laisser des fonctionnaires décider à ma place ce que je peux lire.
Qu'est-ce qui est la différence entre un fonctionnaire qui interprète la loi puis un juge qui interprète la loi?
Ah non, c'est une immense différence. Une immense différence.
Parce que tu as des recours, là.
Le juge...
Toi, tu veux faire appel aux décisions.
Le juge est nommé à vie et il n'est plus soumis aux aléas politiques. Le fonctionnaire, lui, il est soumis aux aléas politiques. C'est la différence du monde entre les deux. Un juge, là, il est nommé à vie. Une fois qu'il est nommé, regarde ce que Trump a fait. Trump, il a nommé des juges à la Cour suprême en disant que des conservateurs vont être de mon bord. Ils l'ont tout envoyé après.
Chnout.
Bon. Parce que une fois qu'ils sont nommés, ils sont là pour tout le temps. Puis, ils ne sont plus soumis aux aléas politiques. Si tu nommes un fonctionnaire, par exemple, un genre de CRTC numéro 2, juste pour les médias numériques, c'est un fonctionnaire qui va avoir besoin de se faire renommer pour un autre mandat de 5 ans,
puis un autre mandat de 5 ans,
puis qui va être dépendant du politique.
La police, le policier qui te donne étiquette dans la rue, là, est-ce qu'il est soumis aux aléas politiques?
Non. Pour la bonne raison que le ticket, tu peux le contester devant un juge.
Même chose pour ça. Moi, ma structure ressemble énormément au service de police, mais 100% numérique. On s'attaque à ce qui est le dark web. Alors, tu disais, pourquoi on s'attaque pas au dark web? Avec un organisme comme ça, aurait une division dark web.
Ouais.
Une division réseaux sociaux. Mais on est rendu là d'avoir un service de justice, un service de surveillance, style police, mais pour le numérique.
Moi, je n'en suis pas encore certaine. Et je pense que c'était une mauvaise chose. J'ai vu un auditeur qui me l'a écrit plusieurs fois durant la conversation. Ça a commencé avec l'exclusion de Trump des réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose d'éliminer ces gens-là des réseaux sociaux parce qu'ils se regroupent de manière souterraine ailleurs et que là, ils se créent un monde et qu'en plus, tu les victimises puis que tu leur donnes l'impression qu'ils sont persécutés, ce qui est les ingrédients pour faire une secte.
Absolument.
Alors, moi, tout ce qui va limiter la liberté d'expression, je veux surtout pas que ça passe par des aléas politiques. Surtout pas.
Sauf que si t'as un groupe qui est que sa responsabilité, c'est ça, qui est non pas soumis aux politiques, mais qui est aussi indépendant que la police, mais d'une autre division, parce que là, on n'arrête pas.
Pourquoi penses-tu que les réseaux sociaux se déchaînent comme ça? Parce que les médias traditionnels ont été obligés au cours des dernières années de limiter la liberté d'expression. Alors là, l'exutoire, c'est devenu les réseaux sociaux. Tu vas limiter les réseaux sociaux, il va y avoir un autre exutoire.
Sauf qu'il faut
Moi,
que
je préfère lire les imbéciles que de savoir qu'ils sont quelque part souterrains en train de comploter.
Oui, ça je comprends, mais à quelque part, si ton propos est illégal,
poursuis-les. Mais là, on a tout ce qu'il faut pour. T'as déjà tout ce qu'il faut pour.
Sauf qu'on dit qu'on manque de ressources pour ça. Fait qu'avec la création d'un autre organisme, t'aurais des ressources pour ça.
Non. Si tu manques de ressources pour ça, c'est que tu vas rajouter aux organismes qui existent déjà des ressources. Mais tu crées pas une autre machine qui va être une machine à nomination politique. C'est ce que je crains, moi.
Mais c'est ce que je t'ai dit qu'il faut pas. Mais c'est là qu'on diffère. Moi, je tiens mon point.
Je vais juste dire où je me positionne là-dedans. Là. Ben, je vous ai laissé argumenter. Mais je vois énormément de niaiseries sur les réseaux sociaux. Et un autre phénomène que je vois, c'est à quel point les jeunes s'informent par les réseaux sociaux et que c'est rendu leur plateforme pour s'informer, discuter, vivre là-dessus, littéralement. Et il doit avoir un certain système qui filtre ça parce que c'est rendu qu'il y a des fake news partout.
C'est quoi le système? Ça s'appelle l'éducation. Et ça se fait à partir du primaire.
C'est vrai que c'est vrai, l'éducation. Parce qu'il y en a certains comme moi qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont capables de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais quelqu'un de 17 ans qui n'est pas trop informé, qui va là-dessus...
Ils vont s'informer.
Ils vont s'informer.
C'est comme tout nouveau gadget, là. Puis les réseaux sociaux, c'est relativement nouveau. Ça a une vingtaine d'années, là. Mm-hmm. À un moment donné, on l'apprivoise, puis on le discipline, puis on éduque les gens à ça. Moi, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes à l'école à la maison à distinguer le vrai du faux.
Et
mais limiter la liberté d'expression, ça a toujours un revers et il est rarement positif.
Et les jeunes doivent continuer à suivre les journalistes et pas seulement s'informer sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi les journalistes sont essentiels encore en 2021, selon moi.
On ne chicanera pas là-dessus.